7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. 2 ans après les attentats du 13 novembre, où en sommes-nous des expériences de déradicalisation? Peut-on d'ailleurs encore utiliser ce mot? Peut-être faudrait-il plutôt parler de désendoctrinement et de réinsertion dans la société pour des personnes qui soit sortent de prison, sont en attente d'un jugement ou sont répertoriées comme radicalisées proches des milieux terroristes, sans oublier les Français qui rentrent de Syrie ou d'Irak, dont les femmes qui font maintenant systématiquement l'objet d'une procédure judiciaire. Alors après des mois de tâtonnement, qu'a-t-on appris finalement des échecs comme celui du centre de déradicalisation de Pontourny? Comment prendre en compte des parcours de vie différents avec une méthode reproductible, si elle existe? Une nouvelle expérience est en cours en ce moment avec 14 personnes. Faut-il davantage miser sur la prévention quand on sait à quel point la déradicalisation s'avère difficile? Emmanuel Macron devrait d'ailleurs annoncer d'ici la fin de l'année un plan de prévention. Nous en discutons avec nos invités. Esther Benbassa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. À ce titre, vous avez publié en juillet dernier, avec la sénatrice Catherine Troendlé, un rapport sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la réinsertion des djihadistes en France et en Europe, qui est d'ailleurs en libre accès sur Internet. Et vous êtes professeure des universités, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Toby Nathan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de psychologie à l'université Paris 8 Saint-Denis, père de l'ethnopsychiatrie, spécialiste du psychisme des migrants et de leurs descendants. Et vous venez de publier Les âmes errantes. Vous avez... je ne sais pas si vous acceptez le mot, mais retisser avec des jeunes radicalisés leurs histoires, leurs racines. Vous nous parlerez de cette expérience. Azim El Difraoui, bonjour. Vous êtes politologue à l'Institut d'études politiques de Paris et vous êtes spécialiste de la mouvance djihadiste et vous avez notamment travaillé sur les expériences de déradicalisation en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark et vous avez publié entre autres le djihadisme. Les voisins, vous nous suivez aussi en direct sur Twitter. Esther Benbassa, qu'a-t-on appris des expériences de déradicalisation aujourd'hui?
Je ne saurais pas vous répondre exactement à cette question, mais je crois qu'on a tiré certaines conclusions. Vous voyez, on a fermé le centre de Pontourny, qui coûtait quand même 2,5 millions, au maximum. Il y a eu
9 personnes
qui ne sont pas restées, même pas un an d'ailleurs.
5 mois.
Donc, 26 employés. C'était un gâchis parce que on a beau dire qu'on va faire de la recherche à Pontourny, on fait de la recherche lorsqu'il y a des gens. Moi, j'ai visité ça en février avec ma collègue. Il restait une seule personne qui allait être condamnée la semaine d'après. Ce centre n'a pas marché. Parce que assembler les gens qui se ressemblent est un vrai problème. Oui. C'est ce qui est arrivé aussi en prison. Mais les conclusions, c'est que et notre modeste rapport, parce qu'on en a fait 2, n'est-ce pas? On a publié un en février et un en juillet. C'est que on a appris que peut-être le mieux, c'est de faire un travail, un accompagnement individualisé qui coûte peut-être moins cher ou à le même coût que ce qu'on a fait avec des dizaines et des dizaines d'associations qui ont fait plutôt du social et aussi penser qu'il faut des petits groupes. On s'est servi de cette expérience que nous avons visitée à Aarhus au Danemark où il y a un référent, il y a du monitoring, il y a un mentor, le référent par exemple dans le projet RIP, le référent à 5 personnes qu'il suit. Je les ai reçus le 19 septembre. L'idée, certaines idées, je ne dirais pas que c'est que notre rapport, mais devant l'échec, il y a eu quand même quelques conclusions. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de réussite assurée dans ce genre d'entreprise. C'est pour ça que notre premier rapport, on l'a appelé tâtonnement impasse des politiques de déradicalisation.
Alors, vous avez surtout ce qui a été très médiatisé, c'est la fermeture, effectivement, le fiasco, dites-vous, dans votre rapport de Pontourny, où il y a eu au mieux 9 personnes au lieu des 25 prévues. Vous parlez d'une gabegie financière, mais vous avez reçu une quarantaine de personnes. Il y a des dizaines d'associations qui travaillent sur la déradicalisation à l'heure actuelle. Il y a des unités dédiées en prison. Azim El Difraoui, est-ce que à l'heure actuelle, vous diriez qu'on a fait jusqu'à maintenant surtout de l'affichage sans se soucier du fond ou pas?
À un moment donné, il y avait un moment d'affichage, ça date de 3 ans, mais là, il y a les associations qui se mettent en place. Mais je voudrais peut-être d'abord clarifier un peu le terme. Donc, le djihadisme en soi, donc c'est un mot de science sociale, donc c'est une forme d'extrémisme violent, une idéologie sectaire. Donc c'est peut-être le premier point. Il y a des autres extrémismes violents, ça c'est clair. Donc si on parle de déradicalisation, qu'est-ce qu'on, comme vous avez souligné, on parle d'une possible réintégration dans la société qui fait partie de la lutte contre le phénomène beaucoup plus large du djihadisme et qui a plein de causes. Donc c'est un aspect de la lutte contre le djihadisme. Et pourquoi réintégrer des gens dans la société? Pourquoi le déradicaliser, entre guillemets? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas faire de Guantanamo à la française ou à l'européenne, incarcérer...
Ça, c'est le contre-modèle absolu, donc, le Guantanamo
voilà,
américain.
C'est le contre-modèle absolu. Donc, on ne peut pas laisser ces gens sans suivi dans les prisons, hors prison et tout ça. C'est qu'on a vu, ça donne de résultats désastreux, à savoir, par exemple, les attaquants, les meurtriers de Charlie Hebdo sont presque tous passés par la case prison, sans qu'il y avait des suivis à l'époque. Donc aujourd'hui, on sait, il faut, pour ceux qui sont réintégrables, les réintégrer dans la société. Ça, c'est pas le cas pour tout. Il y a des idéologues djihadistes qu'on peut pas récupérer. Donc c'est là, le problème, il est purement sécuritaire. Purement sécuritaire, mais une grande partie de jeunes, surtout qui sont partis au début au conflit syro-irakien, d'autres jeunes qui sont restés en France, qui sont radicalisés ici, des femmes ou même des enfants.
Tous ne font pas l'objet d'une procédure judiciaire d'ailleurs. Hein,
Une grande partie, mais tous pas. Mais à toute façon, les réintégrer dans la société, donc le centre de Pontourny, c'était un désastre. Moi-même et plein d'autres spécialistes sont avertis que la démarche collective a très peu de chances à réussir. Donc on s'accorde en Europe maintenant aujourd'hui qu'il faut mettre en place un suivi individuel. Mais ce suivi individuel peut prendre complètement de différentes formes. Donc en effet, là, on discute ici dans cette émission avec un ethnopsychologue, ethnopsychiatre.
Tobin Nathan en face de vous.
Oui. Donc l'aspect psychologique, il est important. Mais il y a aussi des autres aspects. Ces gens, ils ont besoin d'un suivi de réintégration classique, réhabilitation, donc les travailleurs sociaux. On doit s'occuper de leur famille. On doit le suivre spirituellement, leur expliquer tout les facettes de l'islam, par exemple, que Daesh et le djihadisme ne parlent pas au nom de l'islam. Donc aujourd'hui, on s'oriente
vers une approche pluridisciplinaire,
holistique,
politique, sociologique, psychique,
des assistants sociaux, des psychologues, même des personnalités religieuses. Il faut aussi se mettre en accord avec les entreprises. Ces gens, il leur faut du travail aussi, un stage, du travail.
Ou une reprise de cursus éducatif pour les plus jeunes.
Oui, et puis changer de méthode. Mais peut-être on fait une seule distinction. Il y a deux sortes quand même de prise en charge. Pour ceux qui sont sous main de justice, et ceux qui ne le sont pas.
Soit qui sont en attente d'un jugement, soit qui sont sortis
de
prison.
Ou sinon, des jeunes entrés en violence. Et monsieur a parlé du terme. Moi, j'ajouterais quelques éléments. Vous savez, dans les différents pays qu'on a visités, les expériences, on parle de désengagement, on parle de sortie de violence, de désembrigadement, de désendoctrinement, parce que dans des radicalisations, il y a une idée derrière et qui serait enlevé à cette personne, y compris son islam, qui quand même le tient debout, même si c'est islam.
Sa racine, c'est ça. Hein?
Oui, pas ses racines, mais son engagement, parce qu'il faut aussi faire la distinction entre ceux qui s'engagent, même si l'engagement est funeste, dans l'idéologie de Daesh, et ceux qui tourne autour. Ouais. Donc, il faut faire toutes ces distinctions. Et quand on a parlé de radicalisation, l'idée derrière, c'était enlever leur islam. Alors là, on risque de faire des bombes...
On fait fausse route.
Des bombes ambulantes, peut-être.
Toby Nathan, je parlais de racines parce que vous préférez le terme radicaux. Radicaliser.
Ouais, enfin non, c'est un terme qui est problématique. Hein. De toute façon, tout le monde en convient. Ce sont des radicaux. Ce sont des radicaux et des radicaux. Il y en a toujours eu. Je veux dire, il y en a eu. Il y a eu des radicaux d'extrême gauche. Il y a des radicaux d'extrême droite. Il y a eu des radicaux d'extrême droite. Il y a des radicaux religieux. Il y en a toujours eu. Et la jeunesse est particulièrement sensible à cette radicalité. Bon, pour ce qui me concerne, moi j'ai travaillé avec des personnes qui ont été signalées par leur entourage parce qu'elles ont basculé dans l'idéologie extrémiste sans qu'il n'ait commis aucun attentat. Ce ne sont pas des gens sous main de justice,
vous
précisément.
Vous avez travaillé à la demande de la préfecture de Paris avec des jeunes?
C'est un comité interministériel qui s'appelle le CIPDR et qui ensuite transmet les dossiers à la préfecture de Paris qui fait appel à nous. Alors, pour un psychologue que je suis, c'est une situation particulièrement compliquée, puisqu'il s'agit de prendre contact avec des gens qui ne demandent rien, d'abord. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont rien signalé du tout, hein. Ils ne demandent rien. D'autre part, qui ne sont pas malades. Alors, moi, j'ai l'habitude de soigner des gens qui sont malades et qui demandent à être soignés. Donc, un, ils ne sont pas malades. Deux, ils ne demandent pas à être soignés. La demande provient de leur entourage, de leur famille, de leurs enseignants, parfois. Et on commence par là. Et en général, ça demande du tact et du temps.
Alors, avant que vous nous racontiez comment vous avez travaillé avec ces jeunes, parce que c'était essentiellement d'ailleurs des jeunes.
J'ai travaillé avec les 18-25 ans. Voilà. C'est des jeunes, mais ce n'est pas des tout jeunes.
Non, d'accord. Enfin, ça fait partie des jeunes. Vous dites qu'il y a un problème de pilotage ou un problème dans l'approche jusqu'à maintenant, dans les expériences qui ont été menées?
C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'expériences très différentes. Donc, moi, je ne peux pas dire ça. Je pense qu'il y a eu un gros problème avec Pontourny. Madame Benbassa l'a souligné, et dans son rapport, elle le dit, c'est qu'on pensait pouvoir travailler avec des gens volontaires. Il y a quelque chose d'absurde. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui va vous dire « s'il vous plaît, déradicalisez-moi », c'est une blague, quoi. Donc, évidemment, ce ne sont pas des volontaires. Donc, s'ils ne sont pas des volontaires, est-ce que c'est une alternative à l'emprisonnement? Donc, il fallait prendre une position claire là-dessus. L'expérience a échoué du fait de son absence de clarté, en fait. Hein. Bon, mais ça, c'est vrai. Je pense que ça, c'est une vraie question. Il y a eu d'autres expériences qui sont plus basées sur, disons, des prises en charge psychosociales qui n'ont pas si mal marché que ça. Et puis, la nôtre est une expérience quoi. Nous sommes des psys.
Vous revendiquez une approche plus psychiatrique, finalement.
Non, psychologique.
Psychologique.
Pas psychiatrique du tout. Il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de médicaments.
Mais il utilise des ressorts de l'ethnopsychiatrie, oui. Notamment sur les parcours migratoires.
Exactement.
Des aïeux, des parents, des grands-parents, de l'histoire familiale de ces jeunes.
Exactement.
Qui, en général, ont tous une histoire migratoire.
Alors, exactement, parce que ce qui m'a frappé, moi, c'est que sur les personnes que j'ai vues, j'en ai pas vu des centaines, hein, j'en ai vu 60. Et il paraît qu'il y a 20 000 personnes qui sont signalées.
60. 15 000 fichés S à peu près.
Oui, les chiffres. Bon,
là aussi, il faudra discuter de l'ouverture.
Ouais, c'est à peu près 20 000. Hein. Mais enfin bref, c'est pas grave, hein. c'est de cet ordre-là. Moi j'en ai vu 60, une toute petite cohorte. 80% de ceux que j'ai vus étaient des migrants de seconde génération. C'est donc une population ciblée. C'est peut-être pas parce qu'ils ont une propension à ça, c'est peut-être aussi parce que les recruteurs ont ciblé cette population, et d'ailleurs il y a des textes, hein, on sait qu'il y a des textes où les recruteurs ont ciblé cette population.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, je voudrais qu'on parle du nouveau programme RIVE qui vient tout juste d'être rendu public et qui concerne 14 personnes, programme lui aussi de déradicalisation en France.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
J'ai bien dit 14 personnes hein, sur ce programme Rive, recherche et intervention sur les violences extrémistes. Il y a 8 hommes, 6 femmes condamnés, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes ou dans des affaires de droit commun, mais qui sont identifiés comme radicalisation, comme radicalisés. Azim El Difraoui, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau programme qui a été d'ailleurs qui est expérimenté depuis plusieurs mois dans le plus grand secret?
Ça depuis pas juin. Hein, depuis c'est... juin. C'est à la suite de la loi.
Voilà, mais pour l'instant, ça a été.
Mais il n'est pas mis en œuvre.
Ça n'a pas du tout été médiatisé
quand
jusqu'à maintenant.
Quand je les ai vus le 19, oui.
Esther Benbassa, que faut-il. Azim El Difraoui, je vous en prie, allez-y.
Je vais peut-être faire des remarques un peu tendancieuses, là. À savoir, la plupart des programmes, comme vous soulignez tout à l'heure, au début en France, surtout sous le gouvernement Valls, étaient plutôt des programmes d'affichage. Donc on déléguait ça à quelqu'un, à un assos qui voulait bien le faire. On faisait à la va-vite, surtout tout c'est géré par les CIPD à l'époque, donc par des autres fonctionnaires. Donc la France est longuement dédouanée de n'importe quelle responsabilité politique. Donc on nomme un préfet qui va gérer ça un peu, là, avec ses moyens limités, moyens dans tous les sens.
Le CIPDR, 20 millions d'euros
voilà,
de budget.
Voilà, de budget. Mais surtout, ces gens servent un peu comme fusibles. Il y a d'autres pays où il y a des secrétaires d'État qui gèrent ça. Donc il faut, à long terme, avoir une responsabilité politique qui assure cette partie de la lutte contre le djihadisme qui me semble très importante. Concernant Rive, c'est des gens extrêmement sérieux qui ont déjà eu une expérience. Donc là, l'État français l'a pris.
Quand on dit des gens, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres,
criminologues, tout. Donc eux, ils ont suivi, c'est qu'avant, ils n'étaient pas suivis, vraiment des recommandations des experts. Ils ont fait des enquêtes parmi plein d'experts européens, regardé toutes les expériences européennes pour vraiment faire un programme sur mesure avec un sérieux scientifique et avec une vieille tradition. Mais le résultat, je ne peux pas
ouvert,
dire.
Au milieu ouvert, il faut bien spécifier.
Oui,
hein.
Au milieu ouvert,
mais en dehors des murs de la prison,
on peut complètement
mais
imaginer.
Par la justice.
Ah, oui, imposé, mais un peu complètement imposé. Donc, des gens extrêmement sérieux et on espère que ça va porter ses fruits. On ne peut pas dire beaucoup plus.
Alors,
contrairement aux autres programmes,
c'est une approche radicalement différente, puisque c'est une approche 100% individuelle. Il n'y a pas de regroupement. Ces 14 personnes ne se croisent jamais, si j'ai bien compris, Esther Benbassa.
Oui, il y a quand même un référent pour 5. Mais il faut peut-être dire
à vos
auditeurs...
Ce n'est pas un travail en groupe.
Non. Il faut dire
contrairement
quand même
au centre de Pontourny, où ils étaient ensemble.
Bien sûr, bien sûr. Et puis c'était, comme Toby Nathan l'a dit, Pontourny, c'était comme les alcooliques anonymes. Voilà, je veux me désintoxiquer.
N'importe quoi.
Alors, ça, bon. Alors, c'est une idée quand même surréaliste de M. Valls, hein, il faut l'avouer. Bon, mais là, peut-être pour votre public, il faut leur dire, ce sont des jeunes gens qui sont ou poursuivis ou condamnés pour infraction en relation avec une entreprise terroriste. Ou sinon, des personnes déjà en prison qui ont été signalées par l'administration pénitentiaire pour, entre guillemets, radicalisation.
Et qui sont toute la journée en entretien entre les mains de personnes professionnelles sur le sujet. 6 jours sur 7.
Mais écoutez, ils ne sont pas en entretien toute la journée. Si vous me laissez terminer, ils ont des entretiens, c'est normal. On les aide dans les démarches, hein, des démarches administratives qu'ils ne savent pas faire, puisque l'objectif, c'est la réinsertion. Et à côté de ça, il y a des activités, un suivi avec des psychologues, des assistantes sociales, des chercheurs, même un imam. Donc il y a une sorte... D'abord, les gens, on les évalue pendant 3 mois pour savoir quelle est la méthode qu'on va utiliser et comment on va agir avec eux.
C'est ça,
donc,
avec c'est vraiment une approche individuelle. Hein, vous restez avec nous, on va parler aussi des expériences à l'étranger, notamment au Danemark, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, et de la prévention aussi de la radicalisation. 7 milliards de voisins, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous faisons le point aujourd'hui, 2 ans après les attentats du 13 novembre, sur les expériences de déradicalisation avec toutes les interrogations que pose ce mot que l'on a souligné en première partie d'émission avec nos invités. Peut-on parler d'un échec des politiques de lutte contre la radicalisation en France? Faut-il s'inspirer d'exemples étrangers? On en discute avec vous, Toby Nathan, ethnopsychiatre, Azim El-Difraoui, politologue à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de la mouvance djihadiste, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous avez publié avec une autre sénatrice le rapport sur le désendoctrinement, puisque vous préférez davantage ce terme, et le désembrigadement et la réinsertion des djihadistes en France et en Europe. Nous parlions juste avant le flash de ce tout nouveau programme qui est en train d'être expérimenté depuis le mois de juin dernier avec 14 personnes. Alors là, pour le coup, on est loin de l'affichage politique. Ça s'est fait très très loin de la médiatisation. On vient de rendre publique cette expérimentation. 14 personnes, 8 hommes, 6 femmes, avec un suivi totalement individualisé. D'ailleurs, il ne s'agit pas de rencontres en groupe, c'est ce que vous nous disiez, Esther Benbassa.
Oui, enfin, c'est un complément au dispositif du SPIP, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
C'est ça. Et puis, ça se passe bien en dehors de la prison.
Oui, on est bien d'accord. Ça, c'est pour les gens sous main de justice.
D'ailleurs, soit qui ont une peine de prison avec sursis, soit qui sont en attente de jugement,
ou qui sont en voie de radicalisation en prison. Mais et le problème n'est pas là, c'est que il faut pas. Vous avez parlé du CIPDR,
le comité interministériel de la prévention de la délinquance, parce qu'on nage dans les cycles, hein, voilà. Dans les cycles,
alors,
et c'est très compliqué.
C'est quand même le marché. Avait été lancé par le ministère de la Justice, pas par le CIPDR. Et d'ailleurs, il existe à Mulhouse, Accord 68, qui s'occupait des néo-nazis, des délinquants, et qui aujourd'hui mène une expérience très intéressante qui ressemble à celle de Rive. Ne nous emballons pas, demandons l'évaluation. Il y a d'autres qui se sont emballés pour d'autres expériences, mais ces expériences, le peu que j'ai vu à Mulhouse, c'est quand même intéressant. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un travail sérieux qui soit mené par ce programme. Mais évaluation obligatoire. On n'a pas évalué assez ni les associations, ni les programmes, ni les projets.
Jusqu'à maintenant. Ça vient de démarrer, vous dites ne nous emballons pas, d'autant plus que ça concerne 14 personnes
sur
15 000 fichiers S, Azim El-Difraoui.
15 000 fichiers S, ça ne veut rien dire non plus. Dans le fichier S, on trouve aussi, je ne sais pas, d'autres extrémistes, de gens qui n'ont rien fait, de gens qui sont signalés, qui n'ont rien à voir avec le djihadisme. Donc, fichier S, déjà.
Alors disons 1200 détenus de droit commun identifiés comme radicalisés en France,
voilà,
si vous préférez,
voilà.
Je ne sais pas.
Oui, tout à fait, donc ça c'est un peu plus précis déjà, je trouve, donc c'est pas mal, et quelques autres qui sont...
Et 500 détenus poursuivis ou condamnés pour terrorisme.
Et de gens qui étaient vraiment radicalisés. Déradicalisation, encore une fois, c'est juste une partie de la lutte contre le djihadisme. Et la première étape de la déradicalisation, c'est l'identification de la personne et les raisons pour lesquelles elle s'est radicalisée. Donc, on est aux quatrième génération du djihadiste aujourd'hui. Donc, les djihadistes en France se radicalisent souvent, vient vers un extrémisme violent pour d'autres raisons que, par exemple, les gens dans le monde arabe qui ont de vraies raisons socio-économiques, qui vivent dans les guerres civiles, qui sont discriminés par des régimes autoritaires et tout ça. Donc, la déradicalisation en Europe, c'est juste une mini-partie de la lutte contre le djihadisme de manière générale. Ayant dit ça, il y a des expériences européennes qui montrent que c'est que, par exemple, RIF fait. C'est une des approches valables, c'est le suivi individuel. Ensuite, il n'y a pas de recette miracle, même dans le suivi individuel. En Angleterre, on a des expériences, par exemple, en prison. Il ne faut pas avoir peur, si on veut déradicaliser, entre guillemets, des expériences très originelles. Un des meilleurs ensembles anglais, c'est une initiative qui s'appelle Unity, menée par un jeune champion des arts martiaux. Qui combat physiquement ou entraîne physiquement des détenus radicalisés en prison. Lui, il est agréé par le gouvernement anglais pour faire ça. En même temps, il assure aussi un suivi psychologique. Donc, c'est ce que les Anglais appellent, par exemple, anger management, donc la gestion d'une frustration et d'une colère à travers le combat, semble fonctionner si c'est suivi avec d'autres choses ailleurs. Donc il y a avec notamment des aspects psychologiques et tout ça. En France aussi, pendant longtemps, on avait ça a arrangé aussi le gouvernement Valls ou d'autres gouvernements de considérer le facteur psychologique comme facteur dominant, parce que ça évitait de parler d'autres choses comme un sentiment réel de l'exclusion, de la discrimination et tout ça, qui sont tous des facteurs de la radicalisation aussi. Tous ces jeunes qui ont des crises identitaires, autres, pas purement psychologiques, mais aussi qui sont rejetés par la société française. Donc pendant trop longtemps à cantonner la prévention et la déradicalisation au niveau psychologique. Moi, je trouve que la psychologie joue un rôle important, que spécialement votre approche ethno-psychiatrique.
Merci.
Est quelque chose de très important pour les gens qui se sentent ni français, ni algérien, ou de gens qui se sentent ni belges, ni marocains, et qui finalement trouvent dans cette idéologie mensongère de djihadisme une identité. Et là, pour conclure sur les expériences européennes, il y a une convergence. Partout maintenant, qu'on s'accorde qu'il faut faire un suivi individuel, même si ça coûte cher.
Et pluridisciplinaire.
Et pluridisciplinaire, avec une vraie politique d'insertion dans la société. Et là, les pays nordiques, ils ont pris un avantage sur la France, parce que la France a longtemps négligé le problème. Et vous voyez le djihadisme comme purement sécuritaire, un sujet purement sécuritaire. Mais par exemple, les Allemands ont pris beaucoup d'avance parce qu'ils avaient malheureusement déjà été confrontés à l'exemple de l'extrême droite, de néo-nazis. Donc, ils ont pu transposer des expériences de néo-nazis qui étaient réintégrés de la société au djihadisme.
Est-ce qu'en Allemagne, il y avait déjà depuis plusieurs années, puisque vous citez trois pays précurseurs, il y a plusieurs années, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark, il y avait en Allemagne déjà une approche plus pragmatique sur la réinsertion. C'est-à-dire, il faut que les gens, on les aide à trouver du travail, à reprendre un parcours d'éducation, de formation, sur la réinsertion administrativement parlant, par exemple.
Oui, et là, il y a un exemple, beaucoup plus que la France. En France, c'est arrivé très très tardivement. Les Allemands ont travaillé ça avec l'extrême droite depuis 20 ans, 30 ans, avec le djihadiste 5 ou 6 ans en avance de la France. Mais ce qui me semble très important, en France, pendant longtemps, tout était porté par l'État. Au niveau signalement, au niveau administratif et tout ça.
Avec une vision assez sécuritaire.
Très sécuritaire.
Et, les
Allemands, les associations allemandes, ils étaient financés par l'État, mais ils jouissaient aussi d'un rôle d'intermédiaire relativement neutre, qui est important. Déjà, pour signaler, c'est important que les gens font confiance, que par exemple une père de famille qui appelle, je voudrais bien terminer cette pensée, qui appelle, ou une mère de famille qui appelle, sait que son fils, il n'est pas hautement, ou leur fille, pas hautement dénoncé chez la police, sauf s'il y a un risque sécuritaire. Et deuxièmement, si c'est géré par les associations, il y a juste aussi beaucoup plus de crédibilité. La crédibilité, c'est une chose très importante si vous voulez réinsérer quelqu'un de la société. La crédibilité, comme intermédiaire neutre. Donc un jeune va pas se confier à vous si c'est pas clarifié que par exemple toutes les informations non qui touchent pas à la sécurité sont directement transmises à l'État. Donc là, il y a une problématique française que par exemple les psys en prison sont maintenant on leur demande de signaler presque tout.
Omniprésence des services de sécurité. On est bien d'accord.
Et là, il faut trouver peut-être de nouvelles démarches d'une manière un peu plus neutre. Je dis pas pour tous les djihadistes. Encore une fois, il y a des cas irrécupérables. Donc là, c'est purement sécuritaire.
Toby Nathan, sur cette approche très sécuritaire en France, et il faut dire aussi que la France fait partie des pays extrêmement touchés par le terrorisme, est-ce que pour vous qui avez tenté d'établir une conversation et un processus de désendoctrinement intellectuel avec une soixantaine de jeunes, vous nous en parliez en première partie d'émission, en utilisant des ressorts de l'ethnopsychiatrie, qui est votre métier à la base, est-ce que cet aspect très sécuritaire dans les méthodes françaises pose problème pour vous?
Bon, enfin, moi, j'ai pas noté ça, mais je travaille pas avec des gens sous main de justice, donc on n'a pas la même expérience. Donc, le principal problème que j'ai eu, c'était de convaincre le jeune de venir nous rejoindre, puisqu'il a été signalé par les parents. Les parents prennent contact avec nous très facilement, que ce soit les parents ou l'enseignant parfois. Ils prennent contact très facilement avec nous. Souvent, il nous est arrivé de voir la famille pendant 2 mois, 3 mois. sans avoir jamais vu l'enfant encore. Hein. Mais il faut du temps, il faut du temps. Au bout d'un moment, on apprivoise la situation et les gens viennent. C'est vrai qu'il y a une mise en confiance, que cette mise en confiance est longue à obtenir et que ça demande du tact aussi. C'est-à-dire il faut aller vers eux, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant là où vous êtes que vous allez le rencontrer. Il faut aller vers eux, il faut savoir à quoi ils pensent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les angoisse, qu'est-ce qui les fait bouger, quoi. Donc, on a fait ça. Ce qu'on a noté, c'est que lorsqu'on arrive à remettre en place les histoires familiales anciennes, et souvent, ce sont des histoires familiales très compliquées, mais au fond... Qui c'est qui n'a pas d'histoire familiale compliquée, quoi, hein ? Nous trois, là, qui sommes invités ici, je sais pas, je connais pas tout le monde, mais nous avons tous des histoires familiales compliquées. Donc, mais en tout cas, quand on les met sur le tapis, c'est-à-dire, moi, j'ai vu des jeunes qui sont, c'est très souvent, hein, des affaires de filiation compliquées. Alors, soit que le père n'ait pas reconnu l'enfant, soit parti, etc. Ce qui arrive très souvent chez les migrants, et en particulier les migrants d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que les parents s'en vont tenter leur chance en Europe, laissent le jeune au pays, ils le laissent 10 ans, 12 ans, 15 ans parfois, le récupèrent après. Cette rencontre entre un jeune et des parents qu'il n'a jamais vu, vous savez, il voit sa maman, il dit bonjour madame, quoi. Et donc, cette relation est très très vite conflictuelle. Elle devient très vite conflictuelle et souvent, ne pouvant pas raccrocher avec les parents, n'étant pas suffisamment formé à la culture française, puisqu'il arrive, il débarque comme ça, eh bien, il y a une échappatoire qui est l'adhésion à des idéologies extrémistes.
C'est ce qui vous fait écrire que la conversion religieuse n'est pas un symptôme, mais une solution,
Bien sûr, tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que c'est pas du tout un symptôme. D'avoir une religion, c'est pas un symptôme, c'est pas une maladie d'avoir une religion. C'est que parfois, quand on a un problème, l'adhésion de manière brutale à une religion radicale, c'est-à-dire simplifiée au fond, hein, et bien ça, c'est une solution à ces problèmes, oui.
Et la recherche d'une nouvelle famille.
Et d'une nouvelle famille, bien
voilà,
sûr.
Voilà, c'est dans la conversion.
Identité, tout court.
Ça joue énormément. Je voulais ajouter quelques mots sur cette histoire de psychiatrisation. Moi, je suis prof depuis 40 ans. Nos jeunes, ils ont tous des petits problèmes, hein, la jeunesse, et, la vulnérabilité aussi, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, être jeune, beau, etc., mais on a beaucoup de problèmes, et en revanche, il ne faut pas psychiatriser. On a psychiatrisé, on a tous, ils étaient un peu dérangés, entre guillemets, et comme ça, on n'a pas vu que ces gens adhéraient à Daesh, c'était un engagement, quelle que soit la nature de cet engagement négatif. Et il y avait aussi le fait de vouloir devenir un héros, l'anti-héros d'un jour, devenir quelqu'un avant de mourir. Alors, vous voyez, il y a quand même, c'est très profond parce qu'on ne sacrifie pas sa vie si on n'a pas un engagement. Parce que croire qu'il n'y a que les fous qui se suicident, là, c'est un suicide. Donc, il faudrait faire la part des choses et ne pas tomber dans une sorte de confusion. Et on voit là de nouveau, nous, dans notre proposition numéro 4, on parlait de cette individualisation obligatoire, nécessaire, etc. D'abord, il y a le problème que nos, ces programmes ne sont pas en réseau sur Internet avec d'autres programmes internationaux. Ça nous aiderait à avancer. Et je dirais qu'il faut aussi demander aux associations, leur offrir un cahier de charges et demander une évaluation, ce que nous n'avons pas fait. Nous avons dépensé des millions en travail associatif.
8 millions d'euros pour 2015-2016.
Voilà, j'ai ici la liste, n'est-ce pas, que j'ai produit. Mais essayons quand même de voir plus large et être modeste et dire qu'on ne peut pas sortir les gens de violence en 3 mois, en 6 mois, en 10 mois, notre temps à nous de politiciens est court. C'est un temps court, on affiche, on dit aux populations que nous sommes en train de les prendre en charge, qu'il n'y aura pas d'attentat peut-être si on prend en charge. Tout cela fait que et on s'est engagé dans une voie problématique. Ouais. Et j'espère qu'aujourd'hui, on prend conscience et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs avec ceux qui reviennent de Syrie et d'Irak.
On est bien d'accord. Néanmoins, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la déradicalisation, si on conserve ce mot-là bien pratique et inexact, est compliquée, que pour le moment, elle est pavée d'échecs. Alors, quid de la prévention de la radicalisation? Emmanuel Macron devrait annoncer un plan de prévention de la radicalisation d'ici la fin de l'année. On en parle dans quelques instants.
Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. On est ensemble. Je me sens libre quand je t'écris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui prie vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. Mon équipe c'est le moteur. Sans elle j'aurais aucun kilométrage. L'important c'est de marquer le but, pas de savoir qui le mettra. J'ai pas besoin d'objets clinquants mec. Mon bagage est mince et même s'il y a pas qu'un chemin, il y en a qu'un quand même. Dehors les nœuds je galère alors ça t'effrite. Des lames, les politiciens courent toujours, mais pour ça les flics te ramènent. Garde ta conscience pour toi, ça t'évite de la perdre. La nuit je prends de la hauteur comme le satellite de la Terre. Envie de casser la démarche quand je t'aimais le rétroviseur. 16 balles et je casse tes barres, je voulais démarrer le proviseur. Comment rester calme, problème inextricable. Mental inexplicable comme une ex qui câble. Et la directrice ferme tes fesses, je veux pas tes conseils machinas. Pour un mot magique t'es comme moi faire le conseil machinal. J'étais qu'un gosse marginal, je faisais mes courses au marché noir. Et quand maman s'en rendait compte c'était le cauchemar chez moi. Entre chien de la casse et aucun combien de mecs sincères, aucun flic quand ça sent le gaz et retient le flow du 75-015. Ma ville est douce comme ces quelques notes, mais cette caisse claire me rappelle à quel point elle peut être brutale. Pense à tout ce bonheur qu'elle te donne et qu'être prend avec un bruit de balle. Sois prudent, les gens
n'ont plus d'art. Dans la rue, moi tu sais, j'y dors pas. Mais quand une chienne aboie, je sais qu'elle ne mord pas. Je n'ai que des cauchemars et la nuit je dors mal. Car mon pote est mort là, comme si c'était normal. Mon pote est mort là, sans même me dire au revoir. Y'a des milliers d'autres âmes tuées pour de l'or noir. Et des milliers d'enfants tenaillés par le manque. Comment veux-tu que les parents parlent manque? Tellement de haine, tu comprends pas, poto, regarde le monde. J'aurais peut-être moins d'attentats sans tous ces bombardements.
Les gouvernements veulent la guerre mais pas le peuple. Alors je me demande pourquoi les balles pleuvent.
C'est le bruit de ma ville, Nekfeu, un des rappeurs qui s'interroge. Tellement de haine, de poteaux quand tu regardes le monde. Il y aurait peut-être moins d'attentats sans tous ces bombardements. Alors justement, ces Français qui rentrent de Syrie, d'Irak, ces épouses, ces enfants, vous en parliez pendant notre chanson, Esther Benbassa, notamment les enfants très jeunes. Quelle prévention de la radicalisation? Et puis pour tous les autres aussi qui continuent d'être tentés par ces dérives.
Oui, mais enfin, il faut faire la distinction entre les femmes qui ont été impliquées dans la guerre, dans des attentats, dans une certaine criminalité, etc. Et puis, il y a les autres qui sont allées, je ne sais pas pour quelles raisons, mais enfin, elles étaient nombreuses, trouver un mari, vivre sa religion, comme on veut, d'une manière authentique, etc. Tout ça, enfin, on ne va pas entrer dans tous les détails. Les retours, dans les retours, on a vu qu'il y a un nombre important d'enfants mineurs. Alors, est-ce qu'on va recommencer enfin, bien sûr, il faut juger s'il y a eu crime, etc. Mais on ne va pas recommencer quand même à les mettre ensemble, à les entasser, à mettre dans des familles d'accueil. Je crois qu'il y a des pays qui commencent à appliquer des méthodes qui ne sont pas inintéressantes. Les appartements éducatifs, les suivis mère-enfant par aussi un panel de spécialistes, et essayer aussi de ne pas sortir du cadre les mères et les enfants. Oui. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait un retour, même s'il y a un jugement, et ce jugement doit être fait très rapidement, et il ne faut pas recommencer les anciennes erreurs et donner à des associations à s'occuper un peu partout, ou faire en prison des unités dédiées qui ont échoué pour les hommes. Enfin, Et je crois que là, la sagesse devrait arriver et il faudrait quand même trouver des solutions.
Alors, aujourd'hui,
pour
si
ne
on...
pas inventer de nouveaux djihadistes.
Si on prend l'ensemble du territoire, on a 800 familles suivies, on a une soixantaine de structures, c'est difficile d'ailleurs de s'y retrouver. Azim El Difraoui, Emmanuel Macron va annoncer donc un plan de prévention de la radicalisation. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, vous, en tant que chercheur ?
Là, on parle de la prévention, donc on change un peu la gamme. D'ailleurs, la prévention, vaste sujet. Une petite remarque, c'est-à-dire Daesh et les autres djihadistes séduits à travers un discours totalitaire qui plaît plus aux jeunes. Et nous, on n'a rien mis en face. En fait, ces jeunes ne croient plus à notre démocratie et tout ça. Et là, il faut haut effort dire à ces jeunes, et ça a fonctionné, par exemple, dans les prisons, que, par exemple, les républiques européennes leur offrent le meilleur avenir possible. Il y a des discriminations, c'est difficile, mais ils peuvent mieux vivre ici, inclus mieux vivre l'islam, que n'importe où, par exemple dans le monde arabe, et surtout pas sous Daesh. Maintenant, là, moi et quelques collègues en train d'écrire une note, j'espère qu'elle va être suivie. À mon avis, je voudrais absolument que les politiques reprennent la main, qu'ils prennent la responsabilité, que ce n'est pas des autres fonctionnaires qui gèrent la déradicalisation, mais qu'il y a une vraie volonté politique derrière. Il faudrait refaire des assises internationales et françaises avec un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la déradicalisation, la prévention. Il y avait des assises qui étaient faites, où moi et des autres étaient à l'origine, qui étaient vraiment un truc très sectaire, pas un vrai débat ouvert, la position française n'était pas mise en doute. Donc il faudrait vraiment faire ces genres d'assises pour stimuler un débat national entre tous les partis, entre tous les associations. Il faut impliquer aussi, comme les autres pays
les politiques et la société civile ensemble, donc.
Oui, et en plus, les services de renseignement, qui en France sont très frileux, et les services de sécurité, en Danemark, en Allemagne, le service de renseignement et de sécurité ont une forme de diplomatie politique, publique. Ils parlent aux citoyens. Donc il faut mettre tous ces acteurs ensemble pour amener ça à un vrai débat national, parce que c'est un problème qui va nous hanter encore pendant des années et des années. Et
est-ce que vous, comme d'autres chercheurs, vous réclamez l'ouverture publique du fichier S?
En partie, c'est pas les fichiers S.
C'est nécessaire en tant que chercheur.
Oui, c'est nécessaire, mais c'est pas les fichiers S qui intéressent les chercheurs. Il y a maintenant des chercheurs, des jeunes chercheurs qui travaillent vraiment sur le profil de gens déjà incarcérés. Donc de plus en plus, là je pense, on a été attendu, ça ne va pas encore assez loin, mais il y a maintenant de plus en plus de chercheurs qui ont accès à des données en partie anonymisées, en partie pas, pour mieux comprendre ces profils très divers de jeunes extrémistes.
Toby Nathan, à la lumière de vos rencontres, du travail avec cette soixantaine de jeunes que vous avez effectué, qui a donné votre livre Les âmes errantes, qu'est-ce que vous attendriez d'un plan de prévention de la radicalisation? Alors que là, vous avez travaillé avec des jeunes qui sont déjà radicalisés.
Non.
En voie de radicalisation.
Signalé, en tout cas, par les familles. Moi, je travaille exactement de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la prévention. Je pense que c'est la seule action véritable actuellement possible.
Où on peut obtenir des résultats,
oui,
sous-entendu.
C'est là où on peut obtenir des résultats, c'est dans la prévention. La prévention, c'est pas seulement les personnes qui ont été signalées. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est un discours idéologique particulièrement attractif pour la jeunesse, et là il y a quelque chose à faire, et je pense que la question qui est beaucoup débattue en ce moment, y compris par les personnes qui parlent de prévention, c'est fabrication d'un contre-discours. Il ne s'agit pas de fabriquer un contre-discours, il s'agit de fabriquer un discours.
On parle de contre-discours, on parle de contre-narratif.
Il faut avoir un discours, un vrai discours. Il faut expliquer notre société, il faut la raconter. Et c'est pas comment essayer d'aller contre. Et c'est ridicule. En plus, ces contre-discours sont mal fagotés, ils sentent la ficelle.
Vous faites allusion à quoi? La laïcité, par exemple?
Non.
Sur les réseaux, madame, il y a
des trucs comme Stop Djihadisme qu'ils ont complètement ridicule, qui contre le bon sens.
Sur Twitter, ils ne marchent pas, enfin, sur Telegram, pardon.
Les jeunes éclatent de rire quand ils voient ça. Oui. Donc, il faut, au contraire, il faut fabriquer un discours, pas un contre-discours, un vrai discours. C'est-à-dire, il faut que notre société parle, et elle parle de manière intéressante pour les jeunes. Ça, c'est de la vraie prévention. Si vous voulez faire de la prévention au niveau des quartiers, c'est ça la prévention qu'il faut faire.
Et la politique de la ville, hein, la politique de la ville est un échec. Il faut la repenser. Je ne dis pas que c'est parce qu'on est délaissé qu'on devient terroriste. Enfin, il faut sortir de ce schéma.
La suppression des emplois aidés, tellement décriée en ce moment.
Bah oui, la politique de la ville est à revoir. Et je voudrais ajouter quelque chose. Nos jeunes, tous nos jeunes, ont besoin d'utopie. Ont besoin des valeurs et pas tout le temps dire mais oui, liberté, égalité, fraternité, dont ils n'ont pas profité comme les autres. Donc, donnons du croire, pas religieux, mais du croire à nos jeunes. Déjà, c'est pas mal.
Je suis complètement d'accord avec Esther Benbassa. Le mot utopie, vision, me semble très important. Mais là, encore une fois, ça c'est... Les djihadistes européens, c'est une petite partie du djihadisme. Il faut aussi qu'on soit absolument solidaire avec nos voisins du sud de la Méditerranée, parce que si on ne va pas éradiquer le cause socio-économique, toutes ces guerres dans le sud de la Méditerranée, on aura en permanence du djihadiste.
Merci.
Et on peut faire tout ce qu'on veut en Europe si on ne se montre pas solidaire avec ces autres peuples qui souffrent, qui sont nos voisins. Mm-hmm. On va... être confronté à ces fléaux pendant des décennies.
Produire de l'utopie pour déradicaliser. Merci à vous tous les trois, Zimeldi Fraoui. Vous avez publié Le djihadisme au PUF, Esther Benbassa, votre rapport sénatorial est sur Internet, et Toby Nathan, Les âmes errantes aux éditions de l'Iconoclaste. Merci à vous trois. À demain les voisins.